voix nue. Entretien d'hier et d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, Roger Munier s'entretient avec Michel Camus. Troisième entretien.
Roger Munier, la traduction est une partie importante dans votre œuvre. Vous avez traduit de l'allemand, de l'espagnol, de l'anglais, du grec. Vous avez traduit Heidegger, Angelus Silesius, Antonio Porcia, Roberto Roaros, Octavio Paz, et récemment d'ailleurs, Héraclite, puisque vous avez retraduit les fragments. Alors, d'où vient cette passion de la traduction, qui est souvent d'ailleurs un pari impossible ?
Oui, vous savez, la traduction, au fond, c'est une maladie. Hein. Il y a des gens qui s'intitulent traducteurs. Personnellement, moi, je crois que la traduction est impossible. Seulement, on peut quand même le tenter. Alors, dans mon cas, moi, j'ai traduit les choses que j'aurais aimé avoir écrites moi-même, d'une certaine façon. D'une part. Mis à part, évidemment, la question de la première traduction que j'ai faite de Heidegger, et qui, elle aussi, a été faite de manière très anecdotique, à savoir, je rentrais donc d'Allemagne, et auparavant, j'étais très plongé dans les études hegeliennes. À cette époque, c'était la grande époque des études hegeliennes. J'étais un peu laminé par Hegel, et je dis à un de mes amis, il faut un peu s'aérer, Heidegger c'est très intéressant, seulement voilà, le meilleur livre n'est pas Sein und Zeit, il ne faut pas commencer par là, il faudrait plutôt commencer, Heidegger lui-même me l'a recommandé, par la fameuse lettre sur l'humanisme qui indique un certain nombre de chemins qu'il ne faut pas prendre, et de chemins qu'il est, au contraire, très désirable de prendre pour bien comprendre sa pensée. Alors, voilà, j'ai acheté le volume en Allemagne, et puis le petit livre, c'est très mince. Si tu veux, tu peux le lire. Comme tu as hegelien, l'allemand ne fait pas de problème. Seulement, les trois premières pages sont tout de même un peu difficiles. C'est des variations sur mögen, mögliche, etc. Bon, je vais te les traduire, et puis après, tu pourras partir, tu pourras y aller tout seul. Et puis alors je m'étends, j'étais déjà un peu délicat à ce moment-là, je m'étends, et puis je me mets à traduire. Alors il me dit, mais tu sais, c'est formidable, c'est très beau. Mais je lui dis, oui, bien sûr que c'est beau. C'est sûr, c'est pas du tout banal, c'est tout à fait autre chose que ce qu'on a l'habitude de lire en philosophie. Mais il me dit, mais ta traduction aussi. Ah, je lui dis, bon. Ben alors, je me suis mis à traduire tout le volume. C'est comme ça qu'a été traduite la lettre sur l'humanisme. Par... d'une manière assez fortuite, finalement, et pas du tout par dessein prémédité, loin de là. Alors, les autres traductions. Ben oui, en effet, j'ai beaucoup traduit. Je me suis même laissé aller par l'amitié, notamment pour le dernier énorme livre d'Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz, sous les pièges de la foi, qui fait plus de 600 pages.
Énorme travail.
Énorme travail. Alors, d'une certaine manière, je ne crois pas à la traduction. Au moins en ce qui concerne, disons, les textes. On peut toujours transférer un contenu d'une langue à l'autre, surtout dans des domaines simples. Encore que ce ne soit pas tellement évident, et que notamment, au niveau des grands traités politiques, historiques, le français devait sa réputation au fait que la formulation en français ne laissait aucune esquive possible. C'est ça qui faisait que le français était la grande langue diplomatique au XVIIIe et un peu au début du XIXe siècle. On peut donc transférer un contenu de sens, on peut éventuellement transférer un certain ton, certaines images, éventuellement certaines tournures, mais quand il s'agit d'un texte, à mon avis, on ne transfère pas un texte. Et pourquoi ? Parce qu'un texte est une chose qui n'existe qu'une fois. Un texte, ça n'existe qu'une seule fois, et naturellement dans une seule langue. Par exemple, les versions successives d'un même poème de Hölderlin ne me semblent pas la même chose dite de trois manières différentes. Quand Hölderlin écrit une version, et une autre version, et une troisième version. Il se remet dans un mouvement d'écriture différent à chaque fois. Et c'est d'ailleurs ce qui est très très bien expliqué en allemand, où les versions différentes sont dites des Fassungen. Fassung, c'est une manière de saisir, une manière de capter. Alors le texte n'existe que d'une seule façon, d'une seule manière et dans une seule langue. Il n'est pas répétitif. On ne peut pas le répéter. Il n'est pas répétable. C'est impossible. Alors la traduction est donc vraiment quelque chose de tout à fait dangereux et à la limite d'impossible. À moins que cela ne donne lieu à un autre texte, justement. C'est-à-dire à quelque chose qu'on pourrait considérer comme un avatar du texte primitif. Une traduction dans la recherche du temps perdu en bengali, il est impossible que cela soit simplement le transfert en bengali de la recherche de Proust. C'est une recréation, une formulation nouvelle dans l'esprit d'une certaine langue et selon le génie de cette langue. La même manière qu'un poème de Rimbaud ne peut être une illumination, ne peut être traduite que si elle, autant qu'il est possible, repasse dans le génie d'une langue différente de celle qu'a employée Rimbaud. Alors, autrement dit, je crois que la traduction est admissible, même si elle n'est guère possible. Elle est admissible pour autant qu'on accepte l'idée qu'un texte peut avoir des avatars divers. Et la preuve en est, c'est qu'il n'y a pas de traduction né variétude. La traduction des Grecs anciens, qui a été faite au moment de la Renaissance, ou la traduction d'Épictète par Guillaume Duver, par exemple, n'est pas du tout celle qu'on peut faire de nos jours. Avec le temps, les traductions changent, les traductions évoluent. Il faut à la limite même accepter l'idée, quand par exemple un texte de moi est traduit en allemand ou en espagnol, c'est qu'il va y avoir peut-être une déperdition, peut-être quelque chose de plus. Bref, que c'est une bouteille à la mer qui est lancée, et qui est un avatar nouveau du texte.
Oui, mais on sait que c'est un compromis. Mais il y a quand même deux grandes tendances. Il y a la traduction littérale, qui finalement sort de la langue française. Il y a la traduction trop esthétique ou trop esthétisante, qui finit par trahir l'œuvre complètement. Alors là, il y a une espèce d'équilibre très... Alors vous, votre tendance entre la littéralité... Et puis revenir à une belle langue française, je veux dire, quelle est votre...
Oui, moi, je ne cherche pas à revenir à quoi que ce soit d'une certaine manière. Je chercherais plutôt à repasser moi-même dans tout le mouvement qui a donné lieu à, disons, l'écriture d'un poème. Par exemple, un poème de Juarros. Je le lis en espagnol, je sens où en est à peu près le centre et quelle a dû être l'intuition première ou l'espèce d'aura qui a déterminé Juarros à faire un poème là-dessus. À partir de là, et dans la plus grande fidélité, la plus féroce fidélité à tous les mots de l'espagnol, je m'efforce de refaire un texte qui soit de moi. Une chose est certaine, c'est que mes traductions de Juarros, d'une certaine manière, sont des textes de moi, et en même temps d'une très très grande fidélité à Juarros. Je crois que le littéralisme fait partie des objectifs divers d'une traduction. Mais ce n'est qu'une partie. Ça ne peut pas donner... Ça ne peut pas être la règle finale du texte dans la langue d'arrivée. Je crois que le parti pris esthétique est très dangereux et que sous le prétexte de refaire un texte, on risque de s'écarter trop du texte original. Je crois que le miracle doit être une certaine coïncidence entre un premier texte, celui de l'auteur, et un second texte, celui du traducteur. Et en même temps, si la chose est bien faite, la traduction, le texte original étant mis en regard, les gens ne pourront faire qu'admettre que c'est presque une traduction littérale. Alors, naturellement, ce n'est jamais tout à fait possible. Il y a des mots qui sont réputés tout à fait intraduisibles. Et ils le sont. Alors, on tourne autour autant qu'on peut. Mais je crois qu'il faut s'interdire toute liberté et en même temps s'interdire tout littéralisme purement répétitif. Et ça, cela suppose qu'on soit soi-même un écrivain. Un traducteur, un vrai, doit être un écrivain. Et c'est tout le problème de la traduction qui est là posé, parce que très souvent, ils ne le sont pas, ou ils ne veulent pas accepter l'idée qu'ils le sont, ou ils pensent qu'ils ne le sont pas alors qu'ils le sont, et qu'il manque donc de cette extrême liberté qui fait qu'à la fin, on met traduit par. Et on signe.
Il y a peut-être plus
Il signe. Comme je disais à quelqu'un qui me disait, récemment, il y a quelque temps, le livre de Paz, c'est un très beau livre, Sor Juana. C'est vraiment une belle figure et c'est vraiment un très beau livre. Et c'est vraiment un livre très bien écrit. Ah, je lui dis, attention, ce que vous avez lu, c'est pas Octavio Paz, c'est moi que vous avez lu. C'est pas moi qui ai fait le livre. Mais c'est pas Octavio Paz que vous avez lu. C'est moi qui ai fait le texte français. Je n'ai pas écrit le livre, je ne l'ai pas conçu, mais en même temps, c'est moi qui le signe.
C'est pour ça que j'inclus les traductions dans l'œuvre d'un écrivain.
Ah, tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que si jamais on devait faire des partages et dire œuvre ceci, œuvre cela, moi je mettrais dans ce qui me concerne œuvre traduite. Parce que tous les textes que j'ai traduits, en général, sont des choses qui m'appartiennent viscéralement, même souvent, fondamentalement.
Ce qui me semble frappant, c'est que vous avez surtout traduit, me semble-t-il, des œuvres avec lesquelles vous aviez des affinités. Et qui, semble-t-il, sont dans la même démarche de pensée. Je pense aussi bien à Roaros qu'à Porcia, qu'à Angelus Silesius. On retrouve chez Angelus Silesius des choses qui auraient pu être écrites par Meunier.
Oui, tout à fait. Oui. C'est d'ailleurs tout ça ce qui m'a d'ordinaire porté en général. Parce que finalement, comme je viens de le dire, là, à propos de ce livre de Paz, ce n'est pas moi qui ai fait le livre, sans aucun doute, hein, mais c'est moi que vous avez lu, n'est-ce pas? Il n'y a pas de doute. Alors, à partir d'un certain moment, une traduction, si c'est moi qu'on lit, d'une certaine manière, c'est presque moi qui ai fait le livre, à la limite. Et pour certaines choses, comme Silesius, ou comme le texte sur le théâtre des marionnettes de Kleist, ce sont des choses tellement fortes que je m'y suis complètement identifié, n'est-ce pas? Et c'est tellement vrai ça chez les grands traducteurs, comme par exemple Philippe Jacotet, c'est qu'au moment où il traduisait Musil, il a écrit dans la même foulée, pour ainsi dire, Éléments d'un songe, n'est-ce pas? Ça lui a inspiré une œuvre personnelle. Il était tellement mélangé à tout ça que ça lui a inspiré une œuvre personnelle. La traduction est une maladie. C'est une maladie qui n'est pas incurable, mais c'est une maladie vraiment... vraiment dont on ne peut pas se guérir très très facilement. Moi je dis toujours c'est fini, je ne traduirai plus, et puis finalement je continue malgré tout à traduire.
Novalis a peu parlé de la traduction, mais j'ai trouvé une phrase de lui dans ce qu'on a appelé son encyclopédie, qui n'était d'ailleurs pas un titre de lui. Et traduire, dit-il, est autant faire de la poésie que produire des œuvres propres, et plus difficile, plus rare.
Sûrement.
Et je pense que c'est une donnée qui échappe un peu aujourd'hui, parce qu'on traduit un peu à tort et à travers, et très vite maintenant dans les grandes maisons d'édition.
Oui, c'est ça. Ce qui est bon aujourd'hui, c'est que de plus en plus se répand l'habitude de donner le texte original en regard. Enfin, c'est plus une coquetterie, ça, qu'une précaution méthodologique, à mon avis. Il y a beaucoup de traductions, il y en a qui sont tout à fait excellentes, mais dans ce domaine-là, c'est pareil. Vous avez Paul Celan, par exemple, il est traduit par Méchenier, par Dubuchet, par Martine Broda, de façon relativement différente. Mais celle qui me paraît une excellente traductrice, précisément, c'est Martine Broda, qui fait d'excellentes traductions de Celan. Probablement parce qu'elle prend part au poème lui-même. Dinimans Rose, la rose de Persane, qu'elle a traduite et qui a été publiée au Nouveau Commerce. C'est un chef-d'œuvre de traduction. C'est très, très beau.
Les Allemands considèrent un peu que les Français sont des mauvais traducteurs parce qu'ils forcent la langue étrangère à s'adapter.
Bien sûr.
Et ils ne cherchent pas à introduire dans la langue française le génie de la langue à traduire.
Mais c'est que parfois, c'est vrai dans le sens inverse. C'est-à-dire que le français exige tellement de précision. Je me souviens d'avoir entendu un père jésuite allemand qui s'appelait Lipport, n'est-ce pas, et qui avait fait un très beau livre, Der Mensch hier predet mit Gott. C'est un livre sur le livre de Job, littéralement traduit, cela, le titre donne L'homme Job parle avec Dieu, n'est-ce pas, et qui n'a jamais voulu qu'on le traduise en français parce qu'il a dit si c'est traduit en français, l'ambiguïté et la souplesse des formules que l'allemand permet fera de moi une sorte d'hérétique et le livre sera condamné, alors qu'en allemand il passe. Alors c'est vrai dans les deux sens, c'est-à-dire qu'à la fois il ne cherche pas, le français ne peut pas rendre toutes les merveilles des langues étrangères, notamment de l'allemand, parce qu'il n'y a pas une langue qui soit plus différente du français finalement que l'allemand, mais en même temps il a ses exigences de clarté notamment, et il y a une déperdition qui est en même temps quelque chose de plus. Si le français est le français et l'allemand est l'allemand, comment peut-on, à partir de quoi peut-on prétendre qu'un texte qui est écrit dans une langue ou dans l'autre peut être traduit dans une langue ou dans l'autre? Il peut être, il peut se produire une sorte de transfert, c'est tout, c'est tout.
Finalement, Roger Meunier, c'est votre intérêt pour une œuvre qui vous incline à traduire Rilke, par exemple, comme vous l'avez fait, une partie du moins des élégies de Duino. Il y a une passion qui intervient à un moment donné, un déclic.
Oui, là, si je vous disais comment c'est venu, vous seriez amusé aussi, parce que, vous comprenez, moi, je ne suis pas un écrivain, je ne suis pas quelqu'un qui a des projets comme ça, qui se décide de faire ceci ou cela. Je réponds à des demandes, à des sollicitations. Et en l'occurrence, je disais à des gens, dans un petit groupe où nous nous réunissions, que la 8e élégie était, à mon avis, une des plus belles, des élégies de Duino. Vous devriez la relire. Alors, ils se sont mis à la relire dans les traductions existantes et ils ont dit, bon, oui, bien sûr, mais enfin, ça ne nous a pas paru extraordinaire. Alors, je dis, moi, dans ce cas-là, je vais la traduire. Et c'est comme ça que je me suis mis à traduire la 8e élégie de Duino. Et quand je l'ai traduite, à ce moment-là, l'idée m'est venue d'en faire un commentaire pour justifier mes traductions, justement. Et pour justifier ma traduction, pardon, et pour peut-être éclairer un certain nombre de choses. Et c'est devenu un chapitre d'un livre, c'est-à-dire le chapitre La déchirure dans le parcours oblique. C'est très anecdotique. Rilke n'est pas un... C'est un poète qui a eu une très très grande influence, un très grand écho en moi lorsque je me suis mis à le lire autour de la 20e année. Mais qui après m'a paru moins mordant que d'autres, peut-être, et que j'ai, à l'heure actuelle, un peu abandonné. Fort injustement, d'ailleurs. Enfin, Rilke n'est pas l'exemple de l'auteur que j'ai traduit parce que je l'aimais. En revanche, Porchia, par exemple, là, j'ai vraiment décidé moi-même... Lorsque j'ai pris en charge la collection L'espace intérieur chez Fayard, qui s'appelait Les documents spirituels, sous Jacques Mazuy, auquel j'ai succédé, je me suis dit, il faut absolument que je retraduise l'intégralité des voix de Porchia. Et ça, je l'ai fait vraiment à chaque fois, comme si c'était une chose que j'écrivais moi-même, et avec un plaisir considérable. Juarros, c'est venu de la même manière.
Vous connaissiez déjà Juarros quand vous avez traduit Porchia?
Ah oui, bien sûr, puisque je lui ai demandé d'écrire la postface au livre qui a paru chez Fayard avec une préface de Borges, n'est-ce pas? Et Juarros, c'est venu également d'une très grande fascination pour le texte des premiers poèmes que j'ai connus de lui, qui, peu à peu, est devenue vraiment une entreprise de traduction assez considérable, puisque j'en ai J'en ai traduit plus de 400 poèmes à l'heure actuelle, et je suis vraiment, et de loin, l'un des premiers, des plus quantitativement abondants traducteurs de Juarros en français. Mais à chaque fois que je traduis un nouveau poème, c'est avec le même plaisir, parce qu'il y a une symbiose considérable entre nous deux.
Mais comment est-ce que la rencontre s'est faite entre vous deux ?
La rencontre s'est faite il y a près de 40 ans, je crois. Tout simplement, je lui avais envoyé, parce qu'il était connu en France. On connaissait assez bien en France les milieux littéraires et poétique surtout de Buenos Aires, pour la raison que ces mêmes milieux, des gens comme Raúl Gustavo Aguirre, Juarros et beaucoup d'autres, étaient très très proches de la poésie française contemporaine, l'avaient souvent traduite, et étaient donc en relation avec des écrivains français. Je crois que c'est plus ou moins par René Char que j'ai dû de connaître Juarros. Et puis alors aussi Cailloua, qu'il ne faut pas l'oublier, avait quand même traduit un certain nombre de poèmes de Juarros dans un des tout premiers numéros de Tel Quel. C'est très très ancien, mais je me suis mis vraiment à le traduire de façon systématique lorsque j'ai fait le volume « Poésie verticale » dans ma collection chez Fayard. C'est à ce moment-là que... Chose curieuse, d'ailleurs, j'avais fait une sélection pour cette publication qui ne pouvait pas reproduire l'œuvre intégrale. Et au même moment, Juarros publiait en Argentine, chez son éditeur Carlos Lolé, une sélection, une anthologie qu'il intitulait Antología Mayor, c'est-à-dire Grande Anthologie. Et c'était presque les mêmes poèmes que moi j'avais choisi et que lui avait choisi pour cette anthologie. Dont le texte d'introduction, d'ailleurs, m'avait été demandé. Et le texte d'introduction de l'Antología Mayor, avant même que j'ai rencontré physiquement Juarros, était signé de moi, il y a de ça... presque une quinzaine d'années.
Une petite anecdote là. Est-ce que c'est le fait d'avoir épousé une femme espagnole qui vous a conduit à travailler la langue et à devenir traducteur d'espagnol ?
Non, pas du tout. C'est la langue qui m'a fait épouser une femme espagnole. C'est assez différent. Parce que, c'est-à-dire que je m'étais mis j'avais l'allemand, l'anglais. J'ai toujours un peu en retard d'une encablure. J'ai commencé à parler l'allemand très assez bien, disons, lorsque les derniers soldats sont rentrés en Allemagne au moment de la défaite et de l'écrasement de l'Allemagne. Alors je me suis dit, tu as perdu ton temps, maintenant il faut se mettre à l'anglais. Mais je me suis mis à l'anglais. Et puis les derniers Américains étaient rentrés chez eux quand je commençais à peine à dominer un peu les choses. Alors je me suis dit aussi qu'il fallait se mettre à l'espagnol. Et j'étais en rapport avec le consul général d'Espagne à Paris, qui était José María Alonso Gamo, et qui était un poète estimable, qui cherchait le contact avec des écrivains français. Et c'est lui qui m'a fait connaître ma femme. Parce que je cherchais quelqu'un avec qui parler espagnol. Et non l'inverse.
La langue qu'on
met
à l'amour.
Mais ce qui s'est produit, curieusement, c'est que maintenant, nous continuons encore à parler espagnol, tout le temps. C'est vraiment la langue entre nous, notre langue, qui a quantité de mots... dont je ne sais pas vraiment le sens en français, surtout au moment où les enfants étaient petits, des mots qui touchent au lange, à la papilla, des quantités de choses comme ça, ou même des recettes culinaires, etc. Moi, je sais comment ça se dit en espagnol, je ne sais pas du tout comment ça se dit en français. Et très souvent, je pensais à ça en lisant sous la plume de Claude Esteban, cette chose très juste qu'il m'avait d'ailleurs souvent dite lui-même, de lui-même. Il m'avait dit, est-ce que tu ne trouves pas que les mots sont différents d'une langue à l'autre ? Il me disait, pour moi, la noche, ce n'est pas la nuit. Et lui est fils d'un espagnol, n'est-ce pas ? Et quand je pense à noche, je pense à autre chose que ce qu'il y a sous le mot nuit. Si je pense noche, je pense une chose. Si je pense nuit, je pense une autre chose. Et pourtant, c'est la même réalité.
Ça, c'est paradoxal.
Ah oui, tout à fait. Alors, imaginez un peu, puisque nous parlons de la traduction, le problème que peut constituer le fait que, En allemand, par exemple, on dit « la soleil »,« die Sonne », et on dit « le lune ». Imaginez un peu quelle pirouette ça produit dans l'esprit, ça, n'est-ce pas, nécessairement, et quelle orientation toute différente d'un poème ça peut provoquer. Il n'est pas possible de considérer la lune au masculin ou au féminin impunément. Voilà. Alors, pour la noche, a quelque chose de plus chaleureux, de plus riche, indubitablement, n'est-ce pas, que la nuit. Par contre, la nuit a plus d'infini. La noche espagnole est peut-être quelque chose de plus immédiatement présent et entourant. L'espagnol est un noctambule, n'est-ce pas? Il vit souvent la nuit, il vit très tard, il mange très tard. La noche. La nuit a quelque chose de plus infinisé dans le mot. Je me demande d'ailleurs comment on est venu de nox à nuit, parce que c'est vraiment, il y a un grand chemin, n'est-ce pas? Et la nuit, c'est... Si j'avais à choisir, indubitablement, je préfère la nuit. La nuit obscure de la mystique, c'est plus beau que la noche oscura, à mes yeux.
À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Roger Munier s'entretenait avec Michel Camus. Demain, quatrième entretien. Réalisation Nicole Salerne.